Bonjour à tous. Le secrétaire général va d'abord vous dire quelques mots sur la ministérielle de défense de cette semaine et il répondra ensuite à vos questions. Bonjour. Cette semaine, les ministres de la défense de l'OTAN se réuniront pour poursuivre l'adaptation de l'Alliance au XXIe siècle. Dans le même temps, ils ouvriront la voie à notre prochain sommet qui se tiendra ici à Bruxelles en juillet prochain. Nous commencerons par une réunion du groupe des plans nucléaires. Cela fait partie de nos consultations régulières pour faire en sorte que les forces nucléaires de l'OTAN restent sûres, sécurisées et efficaces. Nous passerons ensuite à des débats sur l'adaptation de l'OTAN en nous concentrant sur la structure de commandement de l'OTAN et son réexamen. Au dîner, la haute représentante de l'Union européenne, la vice-présidente de la Commission européenne, Mme Federica Mogherini, nous rejoindra pour parler des menaces internationales, en ce inclut la Corée du Nord. Jeudi, nous rencontrerons nos partenaires de Resolute Support pour un débat sur la mission en Afghanistan. Et enfin, en marge de notre ministériel, le secrétaire à la Défense, Mattis, présidera une réunion de la coalition internationale contre Daesh. Nous avons de nombreux sujets à l'ordre du jour, mais j'aimerais me concentrer sur trois de ces sujets. La structure de commandement de l'OTAN, l'Afghanistan et la Corée du Nord. Tout d'abord, les ministres discuteront de la révision de la structure de commandement de l'OTAN. Cette structure de commandement est le squelette, l'architecture même de notre alliance. C'est ce qui fait que l'OTAN est unique, c'est ce qui permet à 29 pays de travailler comme un seul homme. L'OTAN a constamment adapté sa structure de commandement au fil des décennies pour s'adapter au changement de l'environnement de sécurité. Dans un monde plus imprévisible que jamais, il faut s'adapter à nouveau pour faire en sorte que cette structure de commandement soit totalement capable d'assurer dissuasion et défense chez nous et de projeter la stabilité à l'étranger. À cette réunion, j'espère que les ministres pourront marquer leur accord de principe sur une structure de base, sur une architecture de base qui sera le fondement de notre travail. Cela inclura un nouveau commandement permettant de protéger les routes de communication maritime entre l'Amérique du Nord et l'Europe et un autre nouveau commandement pour améliorer les mouvements de troupes et d'équipements au sein de l'Europe. Notre aptitude à déplacer nos forces est essentielle pour la dissuasion et la défense collective. Et ce n'est pas uniquement une affaire de structure de commandement. Il faut veiller que les routes et les ponts soient suffisamment solides pour laisser passer les véhicules les plus lourds et que le réseau ferré soit équipé pour le déploiement rapide de chars et d'équipements lourds. L'OTAN a donc des exigences militaires pour les infrastructures civiles et il faut que ces infrastructures civiles soient mises à jour pour faire en sorte que les besoins militaires soient pris en compte. Mais ce n'est pas une tâche qui incombe à l'OTAN seule. Il faut que nous travaillions en étroite coordination avec les gouvernements nationaux et avec le secteur privé. L'Union européenne, de surcroît, a un rôle important à jouer. Et pour ce faire, l'OTAN et l'Union européenne continueront à travailler main dans la main sur cette question essentielle. Nous adapterons également la structure de commandement pour y intégrer le domaine cyber. Les attaques très importantes, comme WannaCry, par exemple, ont eu une incidence sur les entreprises et les gouvernements aux quatre coins du monde. Nos pays doivent être en mesure de se défendre contre ces menaces et de dissuader tout criminel. Tout cela, comme dans les espaces que sont le sol, l'air, la mer. Deuxièmement, les missiles balistiques de la Corée du Nord et le programme nucléaire de la Corée du Nord sont également à notre ordre du jour. Ils sont une menace pour les alliés de l'OTAN, pour nos partenaires et pour le régime de non-prolifération internationale. J'ai vu lors de ma visite en Asie orientale la semaine dernière que ces menaces internationales ont besoin d'une réponse internationale. L'OTAN continue à adopter une posture de dissuasion forte. Nous avons les capacités et la détermination de répondre à toute agression. Et enfin, nous allons passer en revue la mission Resolute Support en Afghanistan avec nos partenaires. Le ministre de la Défense afghan par intérim nous rejoindra. Il nous fera un exposé sur la situation de sécurité et sur les progrès de son gouvernement sur le front de diverses réformes essentielles. Les dernières semaines ont été rudes en Afghanistan. Il y a eu des attaques insensées, brutales, cruelles, comme notamment l'attaque d'aujourd'hui contre Samshad TV. Mais dans le même temps, les forces de sécurité afghanes ont fait preuve de bravoure, de détermination et renforcent leurs capacités. Par ailleurs, le peuple afghan continue à faire montre d'une résistance remarquable et aspire à la paix. Plus de 13 000 hommes de 39 pays servent actuellement dans les rangs de la mission Resolute Support. Les États-Unis augmentent déjà leur engagement dans le cadre de leur nouvelle stratégie pour l'Asie du Sud. Et nombre d'autres alliés et partenaires vont également envoyer plus de troupes en Afghanistan dans les mois à venir. Afin d'aider l'Afghanistan dans ses efforts contre le terrorisme international et afin d'y œuvrer pour la paix et la réconciliation. Je m'arrête ici et je répondrai volontiers à vos questions. Merci. Merci de vous présenter, de dire quel journal vous venez, le Wall Street Journal, pour commencer. À la quatrième ligne, merci. À la quatrième rangée, pardon. Monsieur le secrétaire général, Julian Barnes du Wall Street Journal, vous avez mentionné l'aspect cyber de la revue de la structure de commandement. Pouvez-vous nous dire quelques mots de ce que vous souhaitez que l'OTAN fasse, ce sur quoi vous voulez que l'Alliance planche et ce qui fera partie du débat sur le cyberdomaine dans la réunion de cette semaine? Merci.
La nature des débats sur la question cyber consistera à faire le bilan de la mise en œuvre des décisions déjà prises. Nous avons conçu le cyber en tant que domaine, tel que air, terre et mer, et nous nous y tenons. Nous avons fait une promesse sur la question cyber. Nous avons indiqué comment les pays et l'OTAN devront améliorer leur défense cyber, et comment il faut améliorer la capacité à protéger les réseaux informatiques, et nous devons veiller à mettre en œuvre les promesses énoncées. Mais nous allons également aborder la façon dont on pourrait renforcer l'élément cyber dans notre structure de commandement. Lors de toute opération militaire, pour toute opération militaire ou opération de l'OTAN, il y aura un élément cyber. Et donc, le cyber est de plus en plus intégré dans tout ce que nous faisons. Et donc, dans le cadre de la revue et de l'adaptation de la structure de commandement de l'OTAN, nous allons aborder le renforcement de la structure avec l'élément cyber aussi. Merci.
Deutsche Zeitung.
La Süddeutsche Zeitung, s'il vous plaît. Monsieur le secrétaire général, quelle sera l'ampleur du remaniement de la structure de commandement? Pensez-vous qu'il y aura une augmentation substantielle des effectifs? Et les coupes qui ont été opérées les années avant étaient-elles prématurées? Est-ce que cela a été des erreurs et est-ce pour cela que vous devez faire marche arrière aujourd'hui?
Il est prévu de prendre des décisions sur la base d'une ébauche, l'ébauche d'une nouvelle structure de commandement de l'OTAN, et cela donc à l'occasion de la ministérielle de demain. Et cela servira de base pour tout travail ultérieur. Après quoi, nous allons procéder à des décisions beaucoup plus détaillées l'année prochaine. Et on abordera cette question lors de la ministérielle de Défense du mois de février prochain. L'ébauche, qui devrait faire l'objet d'un accord demain, est le fruit de conseils des commandements stratégiques. On y intègre donc un commandement pour l'Atlantique, Là, il est question de renforcer notre capacité à protéger les lignes de communication maritime. Ces lignes sont essentielles pour une alliance transatlantique. Nous devons pouvoir déplacer des troupes et des forces de l'autre côté de l'Atlantique, de l'Amérique du Nord vers l'Europe. Et puis, il y aura également un commandement qui va se concentrer sur le mouvement de troupes à l'intérieur de l'Europe. Là encore, c'est une question essentielle. Et puis, il y aura un élément cyber avec bien d'autres éléments que nous allons donc aborder dans le cadre des propositions faites. Je pense que l'OTAN est forte parce que nous pouvons nous adapter. Donc, lorsque le monde évolue, l'OTAN évolue. Et donc, je ne regrette absolument pas le fait qu'après la fin de la guerre froide, nous ayons réduit la taille de la structure de commandement de l'OTAN. Mais parce que tant que nous pouvons nous adapter lorsqu'il y a des tensions croissantes, à ce moment-là, on ne va pas prendre des décisions sur les nombres spécifiques. Il est question d'avoir des ressources supplémentaires. Il est question de voir si on peut refaire la hiérarchie des priorités et être beaucoup plus efficace dans notre travail et dans notre structure de commandement. Demain, nous allons prendre une décision sur une ébauche pour tout travail ultérieur. Je tiens à vous indiquer qu'au cours de la guerre froide, vers la fin de la guerre froide, il y avait 22 000 personnes qui travaillaient dans la structure de commandement de l'OTAN, avec 33 commandements différents. Maintenant, on est à moins de 7 000 personnes qui travaillent dans la structure de commandement de l'OTAN, avec 7 commandements. Cela reflète le changement qui découle de la fin de la guerre froide. Et nous avons beaucoup mis l'accent sur les opérations militaires hors zone de nature expéditionnaire. Et maintenant, nous allons continuer à mettre l'accent sur les opérations expéditionnaires, tout en mettant plus l'accent sur la défense collective en Europe. Et c'est pour cela qu'on adapte la structure de commandement.
Third row, NPR.
Au troisième rang, NPR. Merci, NPR, Deutsche Welle. En Ukraine, les observateurs de l'OSCE ont été victimes de tirs, ils ont été menacés aux armes lourdes. Et dans le même temps, il ne semble pas qu'il y ait beaucoup de progrès politique. Je comprends que l'OTAN n'est pas la première structure qui est censée débattre des progrès entre l'Ukraine et la Russie. Êtes-vous préoccupé par le gel de ce conflit, par l'absence de progrès politique alors que la situation militaire reste menaçante? Je sais que vous n'en parlez pas à cette réunion. Cela m'étonne parce que vous allez parler de la Corée du Nord. Merci.
Tout d'abord, nous avons de nombreuses discussions sur l'Ukraine. Cela a été le cas lors de la réunion Conseil OTAN-Russie il y a quelques jours. Donc l'OTAN reste préoccupée et l'OTAN continue à mettre l'accent sur la situation en Ukraine. Nous avons confirmé à plusieurs reprises que nous allons faire preuve de solidarité à l'égard de l'Ukraine. Nous apportons un soutien politique et nous donnerons aux Ukrainiens un soutien pratique. Et tout le NAC s'est rendu en Ukraine il y a peu. Donc, nous suivons de près la situation et nous apportons un soutien solidement ancré à l'Ukraine. Je m'attends également à ce que les ministres, lors de la discussion sur les défis sécuritaires internationaux et sur le besoin d'adapter l'OTAN, aborderont l'Ukraine. Car l'une des principales raisons pour laquelle l'OTAN s'adapte, avec un plus haut niveau de préparation pour les forces, et également avec un déploiement avancé de nos troupes dans l'est de l'Alliance et avec l'adaptation de la structure de commandement, c'est dû à l'annexion illégale de la Crimée. Et nous voulons stabiliser l'est de l'Ukraine. Nous voulons une mise en œuvre à 100% des accords de Minsk. Et nous abordons la question de l'Ukraine dans tout dialogue politique avec la Russie.
European Pravda. J'ai une question qui porte sur l'Ukraine. Il avait été dit qu'il y aurait une commission OTAN-Ukraine. Que faudrait-il qui, pour que cette réunion ait lieu, l'Ukraine déclare aspirer à devenir membre de l'OTAN. Sommes-nous, en Ukraine, membres candidats à l'adhésion à l'OTAN, à vos yeux?
Nous avons des réunions à une période assez régulière dans la commission OTAN-Ukraine à différents niveaux. Nous avons eu une réunion de la commission OTAN-Ukraine lorsque nous nous sommes rendus à Kiev en début d'année et au mois de juillet. Et puis, nous avons rencontré le président Porochenko et nous avons donc un dialogue politique à haut niveau et des contacts avec nos partenaires ukrainiens. On n'a pas de date qui serait encore fixée pour la commission OTAN-Ukraine, mais ça a lieu avec périodicité régulière à différents niveaux. L'Ukraine est un partenaire proche. Nous soutenons les souhaits euro-atlantiques de l'Ukraine. Nous aidons ce pays avec des réformes. On met surtout l'accent sur les réformes en Ukraine, c'est-à-dire la modernisation des forces armées de l'Ukraine et la modernisation de leurs institutions de défense et de sécurité. Et nous les aidons à cela avec nos ressources humaines, nos équipes qui se trouvent à Kiev et ailleurs dans le pays. Et donc maintenant, je pense qu'il faut mettre l'accent sur les réformes, ce qui va bien sûr aider l'Ukraine à aller vers une adhésion de l'OTAN.
Au premier rang. Merci. Monsieur le secrétaire général, il y a tout juste 2 semaines, vous avez rencontré Brett McGurk, qui est le représentant principal de la coalition anti-Daesh. Pourriez-vous nous en dire un petit peu plus sur votre rencontre avec cette personne et quid des tensions entre les Peshmerga kurdes et l'armée
Nous avons eu une réunion de belle facture avec Brett McGurk il y a quelques semaines déjà. J'ai eu une réunion avec lui dans mon bureau, mais il s'est également entretenu avec tout le Conseil de l'Atlantique Nord. Nous avons abordé la façon dont l'OTAN pourrait apporter un soutien de la meilleure façon possible par le biais de la coalition anti-Daesh. L'OTAN est un membre de plein droit. Nous apportons une aide en termes de formation pour les forces irakiennes et nous apportons un soutien par le biais des avions AWACS de surveillance. Et bien sûr, les alliés qui font partie de la coalition et qui apportent des capacités militaires se félicitent des avancées obtenues dans la lutte contre Daesh. La plupart du territoire contrôlé par Daesh a été libéré et ils ont perdu les grandes villes et le califat n'existe pas. En même temps, nous restons préoccupés. Nous savons que ça ne met pas un terme à la lutte contre Daesh car il s'agit d'une menace de nature mondiale. C'est une menace pour l'Irak et la Syrie, mais on le voit ailleurs et on le voit sur nos propres rues. Daesh organise des attaques ou inspire les auteurs d'attaques. Donc nous devons continuer de lutter contre Daesh. Et la réalité, c'est que depuis la perte de leur territoire en Syrie, en Irak, ils vont encore plus mettre l'accent sur l'organisation d'attaques terroristes prenant pour cible des alliés de l'OTAN et les pays partenaires. Nous aimerions beaucoup avoir un dialogue constructif entre les Peshmerga et le gouvernement à Bagdad parce que nous pensons que tout acte de violence ne ferait que nuire à la lutte contre Daesh.
Geo Television News du Pakistan. Monsieur le secrétaire général, la relation entre l'Afghanistan et le Pakistan est au plus bas. Le secrétaire Tillerson a dit, en lisant entre les lignes, « Avec ou sans le Pakistan, nous allons mettre un terme au terrorisme. » Mais cela fait 70 ans que la guerre fait rage en Afghanistan et que le terrorisme ne cesse pas, ni en Afghanistan, ni au Pakistan. Quel est votre avis sur le Pakistan? Le Pakistan coopère-t-il avec l'Alliance ou pas? Merci.
Oui. Nous avons des contacts à périodicité régulière et un dialogue avec le Pakistan. et cela avec plusieurs vecteurs. Le directeur de l'EMI à l'OTAN s'est rendu il y a peu au Pakistan. Notre commandant en Afghanistan rencontre de façon régulière son homologue ou ses homologues du Pakistan parce que nous devons aborder le grand défi qui est que les insurgés et les talibans travaillent à partir de bases qui se trouvent au Pakistan. Nous avons soulevé ce point à plusieurs reprises. Il est donc essentiel que tous les pays de la région soutiennent les efforts du gouvernement d'unité nationale de l'Afghanistan et qu'il n'y ait pas de havre de paix pour les terroristes. Nous allons donc continuer à soulever ce point avec le Pakistan, car la lutte contre le terrorisme et les talibans a beaucoup à gagner si on peut avoir tous les pays de la région qui y participent.
Madame, au premier rang. Le renforcement de l'insécurité en Afghanistan est un grand problème. L'attaque de ce matin prouve que les médias sont pris pour cible parce qu'ils relaient la voix du citoyen. De quoi allez-vous parler s'agissant de l'Afghanistan et quelles sont les modifications stratégiques que l'OTAN envisage? Vous attendez-vous, à cause de la nouvelle stratégie conditionnelle du président Trump, de changer de politique? Et qu'attendez-vous de la réponse des talibans?
L'attaque qui a eu lieu ce matin est encore un exemple qui illustre la nature brutale des attaques contre les civils. L'attaque a pris fin et ce sont les forces de sécurité de l'Afghanistan qui ont pu arrêter cette attaque. Et cela montre que les forces de sécurité de l'Afghanistan sont des professionnels qui sont pleinement engagés et qui ont les moyens d'apporter une réponse lorsque les insurgés attaquent. Il est toujours inacceptable qu'on attaque des civils. Et on a vu de nombreux exemples au cours des dernières semaines en Afghanistan. Mais je pense que c'est particulièrement sérieux lorsqu'on prend pour cible une station de télé. Donc on attaque non seulement des civils, mais on attaque également l'un des points les plus importants dans une société ouverte, la presse. Donc cette attaque contre Shamshad indique qu'il faut continuer à lutter contre les terroristes et nous devons continuer à soutenir les forces de sécurité de l'Afghanistan qui ont su réagir de façon professionnelle suite à cette attaque sur Shamshad TV.
NATO.
L'OTAN va continuer à soutenir l'Afghanistan et nous avons décidé de renforcer notre soutien. Alors, on procède de plusieurs façons différentes. Je pense que la contribution essentielle, c'est que nous avons décidé d'avoir plus de troupes. On ne va pas revenir à des opérations de combat, mais nous devons renforcer la mission d'aide de mentorat pour aider les Afghanistans à sortir du statu quo et pour envoyer un message clair aux talibans et aux insurgés comme quoi ils ne vont pas gagner sur le terrain de bataille et qu'ils n'obtiendront quelque chose que s'ils se mettent autour de la table des négociations et s'ils participent à une solution politique négociée. La raison pour laquelle nous soutenons les forces de sécurité afghanes, c'est pour permettre une solution politique de nature pacifique. Il y aura plus de troupes, le niveau actuel est de 13 000. Le prochain niveau sera près de 16 000. Troupes. Ces troupes vont faire des opérations de mentorat et d'aide. On veut surtout mettre l'accent sur la formation des SOF, les forces spéciales afghanes. Les forces spéciales afghanes sont essentielles au moment de lutter contre les terroristes et les talibans. Et nous allons les aider à développer l'armée de l'air de l'Afghanistan. De plus en plus, les Afghans peuvent mener à terme des opérations aériennes. Et nous allons aider les Afghans avec des écoles militaires et une amélioration du C2. Et pendant les réunions, on va beaucoup parler du financement. Les alliés non américains sont engagés à donner $1 milliard par an pour soutenir l'armée de l'Afghanistan et les forces de police de ce pays. Et nous allons souligné à quel point il est important de mettre à disposition non seulement les forces promises pour la formation, mais également de mettre à disposition les fonds pour l'armée et les forces de sécurité de ce pays. Et nous allons aborder, par exemple, la question de havres de paix, de refuges dans la région et une approche régionale.
Monsieur le Premier rang, merci. Michael Korestiev, Russie. Pourriez-vous nous dire quels sont les principaux résultats de votre visite en Asie et dans quelle mesure et sous quelle forme l'OTAN peut contribuer à la résolution du problème nord-coréen? Merci.
J'ai passé une semaine au Japon et en Corée du Sud. Et je peux vous dire que cette visite a été très fructueuse et productive. J'ai rencontré le Premier ministre du Japon, le président de la Corée du Sud et bien d'autres dirigeants politiques. Le Japon et la Corée du Sud sont des partenaires proches de l'OTAN. Le Japon est le partenaire le plus long que nous avons eu en dehors de l'Europe et la Corée du Sud est un partenaire proche depuis de nombreuses années. Le comportement irresponsable de la Corée du Nord représentant seulement une menace pour nos partenaires dans la région, pour la Corée du Sud et le Japon, mais ce comportement est une menace pour les alliés de l'OTAN et pour la paix internationale et la sécurité du monde. Donc, dans le cadre de mes discussions avec le Premier ministre du Japon et du président de la Corée du Sud, nous étions fermement d'accord pour exercer une pression maximale sur la Corée du Nord, afin d'arriver à une solution négociée de nature pacifique à la crise. Personne ne souhaite voir la guerre, mais en même temps, il faut éviter une situation où la Corée du Nord pourrait continuer à développer des armes nucléaires et des missiles à longue portée. Et donc, nous devons exercer une pression sur les Coréens du Nord en utilisant la voie diplomatique, en utilisant la voie politique, mais surtout les sanctions économiques. Et je me félicite du fait que le Conseil de sécurité des Nations Unies ait renforcé les sanctions économiques au mois de septembre. Et il semblerait que ces sanctions sont beaucoup plus mises en œuvre maintenant, ce qui permet d'exercer une réelle pression sur la Corée du Nord. L'OTAN a répondu aux menaces nucléaires et balistiques depuis des années. Et comment avons-nous répondu? Et ça remonte à la guerre froide. C'est avec la dissuasion et en montrant la détermination de l'OTAN et que nous avons les capacités pour répondre à n'importe quelle attaque. Cette approche reste d'actualité. Et donc, la dissuasion et notre capacité à répondre, si jamais nous sommes attaqués, sont les meilleurs moyens de prévenir toute attaque. Et c'est bien sûr le cas lorsqu'il s'agit de menaces émanant de la Corée du Nord. Ce qui me préoccupe, c'est que la Corée du Nord est en train de développer des missiles avec une portée plus grande qui pourrait faire en sorte qu'il frappe non seulement des pays de la région, mais qu'il frappe des villes des deux côtés de l'Atlantique, donc les alliés en Europe et aux États-Unis.
Le Washington Post au 8e rang. Deux questions rapidement. Michael Bloomberg du Washington Post. Cette structure de commandement cyber, les alliés de l'OTAN sont-ils à l'aise avec l'idée de partager des cyberinformations entre eux? Dans le cadre de vos efforts, est-ce que vous essayez d'encourager les alliés à partager plus leurs capacités au niveau cyber? Ou bien est-ce envisagé comme étant quelque chose, une mission, un commandement avec une mission très précise, plus étroite? À Washington, pour le moment, on parle beaucoup de la participation, de l'immixtion de la Russie dans la politique américaine. Est-ce que cela va participer de vos débats? Est-ce que cette menace de sécurité va faire partie du débat des ministres de la Défense? Et que pensez-vous de cette intervention de la Russie dans le système politique américain?
Tout d'abord, sur la question cyber. Nous sommes en train de renforcer nos capacités au moment de protéger les réseaux OTAN. Mais également, nous voulons aider les alliés à protéger leurs réseaux. nous avons vu une augmentation marquée du nombre d'attaques prenant pour cible les réseaux OTAN, environ 60% au cours de l'année. Et nous avons vu des attaques de nature mondiale contre des alliés de l'OTAN et des attaques prenant pour cible plusieurs pays. Il s'agit donc d'une menace à prendre au sérieux. Nous partageons beaucoup plus d'informations. Nous partageons les meilleures pratiques. Nous faisons des exercices. Il y a le centre d'excellence sur les cybermenaces à Tallinn. Et donc, il y a beaucoup plus d'exercices qui ont lieu sur la question cyber. Nous faisons plus pour partager les informations, les meilleures pratiques et pour apprendre les uns des autres. Nous avons également créé une plateforme pour le partage d'informations sur les logiciels malveillants, les malwares et les attaques cyber. J'ai vu, par exemple, qu'au cours de l'incident WannaCry, le fait d'avoir une plateforme où les alliés de l'OTAN et les partenaires, par exemple, de l'Union européenne, pouvaient partager en temps réel des informations sur les attaques cyber est quelque chose d'essentiel. Ça nous permet de répondre de la meilleure façon possible. Parlons maintenant des différentes capacités nationales, cyber. Tout comme les autres capacités nationales, ces capacités appartiennent au pays. Les navires, les bâtiments, les avions appartiennent au pays, ainsi que leurs capacités cyber. Et bien sûr, les pays peuvent partager ces capacités avec d'autres alliés, ces pays peuvent travailler avec d'autres alliés et déployer ces capacités lors d'opérations et missions de l'OTAN. Mais ces capacités restent la propriété des pays. Et donc, il n'y a pas de différence entre un pays qui aurait un bâtiment et qui déploie un bâtiment lors d'une mission OTAN ou d'un pays qui a une capacité cyber et qui déploierait cette capacité dans le cadre d'une mission OTAN. C'est la même chose. Et donc, question de l'appropriation nationale, de capacités nationales qui sont déployées pour les missions OTAN. Excusez-moi. Il y a donc une enquête en cours aux États-Unis et ce n'est pas à moi de tirer des conclusions ou de faire des commentaires sur quelque chose qui est encore en cours aux États-Unis. Ce que je peux vous dire, c'est que toute ingérence dans un processus national politique est inacceptable et peu importe le pays d'ailleurs. Et donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles il est important de mettre l'accent sur les menaces hybrides et sur les efforts visant à utiliser le cyber comme moyen. Et il faut qu'on empêche l'utilisation du cyber pour l'ingérence dans des affaires nationales. Et le cyber figure donc à l'ordre du jour de l'OTAN. Il faudra voir le résultat du processus qui est en cours aux États-Unis avant de faire un commentaire.
Au cinquième rang, la télévision allemande. Stefan Leifert, ZDF. S'agissant de la nouvelle structure de commandement, pouvez-vous nous dire quand vous déciderez de la localisation de ces deux nouveaux commandements et l'Allemagne a-t-elle un rôle à jouer dans cette décision?
La décision de demain servira de base ultérieure pour l'ébauche. Donc, il y aura donc un commandement pour le mouvement d'équipement et de forces militaires au sein et également pour un mouvement à l'intérieur de l'Europe. Je ne vais pas vous donner des détails spécifiques pour vous dire où se trouverait un emplacement, mais l'Allemagne est au cœur de l'Europe. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est un processus qui est donc en cours et nous allons prendre des décisions avec beaucoup plus de détails d'ici l'année prochaine. Donc là, on en est à l'ébauche et puis il faudra prendre des décisions d'ici l'année prochaine et il y aura une ministérielle de la Défense au mois de février prochain qui sera une réunion essentielle pour toute décision apportant des détails quant au nouveau commandement de l'OTAN, avec bien sûr les emplacements géographiques de ces différents commandements.
Reuters, au quatrième rang. Merci. Pour en revenir à l'Afghanistan, vous avez mentionné le renforcement des niveaux de troupes pour Resolute Support. Est-ce que ce seront principalement des troupes américaines affectées à l'OTAN?
Je m'attends à ce que, lorsqu'il est question de troupes pour la mission Resolute Support, la moitié de ces troupes viendront des États-Unis et la moitié ne viendront pas des États-Unis. Je ne peux pas vous donner des chiffres spécifiques, détaillés, car nous sommes en train de constituer les forces. Ce sera une question essentielle de la réunion de jeudi. Mais fort de ce que nous avons déjà vu, tout semble indiquer qu'on est à moitié des forces des États-Unis et l'autre pas pour les forces supplémentaires. C'est en fait la composition pour les 13 000 troupes que nous avons aujourd'hui. Et puis, il y a des pays qui ont des troupes en dehors de la mission Resolute Support. Mais lorsque vous parlez des troupes pour la mission OTAN Resolute Support, on est à 50-50.
Merci beaucoup. Parvesh Chamal de Toulou News. La nouvelle stratégie américaine sur l'Afghanistan et l'Asie du Sud fait plus pression pour l'Afghanistan, pour le Pakistan, sur le Pakistan. Le Pakistan qui, dit-on, abrite terroristes et talibans. Quelle est la pression que l'OTAN peut faire sur le Pakistan pour éliminer ces sanctuaires pour terroristes?
Ceci a été soulevé directement avec le Pakistan à plusieurs reprises. Ça a été soulevé par les États-Unis au niveau politique, mais ça a également été soulevé par les commandants que nous avons, les OTAN américains, les commandements américains et OTAN en Afghanistan. Nous allons continuer à soulever ce point avec le Pakistan. Et comme je l'ai indiqué, le directeur de l'EMI s'est rendu il y a peu au Pakistan. Et c'est bien sûr l'un des points qu'il a soulevé avec le Pakistan. Aucun pays ne devrait permettre aux talibans d'avoir un sanctuaire, car à ce moment-là, la lutte contre le terrorisme est d'autant plus difficile.
BST Monténégro. Monsieur le secrétaire général, l'OTAN a déclaré qu'il n'y aurait pas de base OTAN au Monténégro, mais récemment, les leaders d'opposition anti-OTAN ont dit qu'il y aurait deux bases OTAN installées au Monténégro. Est-ce vrai?
Il n'y aura pas d'activité OTAN, il n'y aura pas de base OTAN, il n'y aura pas d'installation de l'OTAN au Monténégro sans l'accord du gouvernement de ce pays. Et c'est le cas pour tous les alliés. Et donc l'OTAN sera présente que si sa présence est accueillie favorablement par un pays. Parfois, l'OTAN apporte un financement pour l'infrastructure. Parfois, nous avons des exercices ou des activités de ce type. Pour moi, ce n'est pas une base OTAN. Pour moi, il s'agit d'activités de l'OTAN. Il n'y a donc pas de plan prévu pour avoir des bases OTAN. C'est-à-dire, ça ne va pas être une grande base OTAN, mais il y a bien sûr des activités OTAN qui vont avoir lieu au Monténégro. Mais ça, c'est parce que nous sommes invités par le Monténégro que ces activités ont lieu.
Thank you. My name is
Konstantin Pinimou, Medusa Rocha. Vous avez parlé cybersécurité. Y a-t-il des menaces spécifiques qui pèsent sur votre cybersécurité et est-ce que l'OTAN a à craindre que la Russie soit une menace pour la cybersécurité de l'Alliance?
Je n'ai pas eu le début de votre question, s'il vous plaît.
Y a-t-il des menaces spécifiques par WannaCry?
Il y a de très nombreuses menaces. Il y a eu de nombreuses attaques, des centaines d'attaques. Et il y a des attaques presque tous les jours contre les réseaux OTAN. Il y a des petits incidents et ça peut aller jusqu'aux attaques sérieuses. Et à ce moment-là, nos experts doivent mettre un terme à ces attaques. Les chiffres sont élevés, mais le niveau de sévérité varie. Il y a des attaques contre les réseaux OTAN, et il y a des attaques contre le siège, mais il y a également des attaques contre les réseaux cyber lors de missions. Et donc, nous voulons protéger ces réseaux-là. Et l'un des défis avec les attaques cyber, c'est de trouver les auteurs. C'est l'un des principaux défis que d'identifier l'auteur ou les auteurs d'une attaque. Et avec nos alliés, nous essayons de voir comment nous pouvons améliorer les méthodes et les technologies pour identifier les responsables d'une attaque cyber. Et là encore, il y a des exercices qui existent et la technologie nous permet d'améliorer notre travail. Plusieurs alliés de l'OTAN ont fait état d'attaques cyber qui seraient dues à la Russie. Il faut garder à l'esprit qu'il y a des acteurs étatiques et des acteurs non étatiques qui sont à l'origine d'attaques cyber. Par exemple, lorsque je suis allé en Corée et au Japon, on a beaucoup parlé du fait que la Corée du Nord serait responsable d'attaques cyber et aurait développé des méthodes très pointues ou des outils pour mener à terme des attaques cyber.
Merci beaucoup. Ceci termine notre conférence de presse. Rendez-vous demain.